Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, chef de marché profession libérale pour le groupe Société Générale.
Chers amis et chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le cadre de la chronique Patrimoine et Finances. Dans ce nouvel épisode, j'ai souhaité vous parler de l'intérêt d'avoir recours à un courtier en prêt immobilier en 2025. À ce titre, j'ai le plaisir de recevoir Norberto De Oliveira, expert en financement immobilier. Bonjour Norberto.
Bonjour Monsieur Primo.
Après une riche expérience de banquier spécialisé en prêt immobilier pour la banque de détail, carrière qui a débuté en 2001, vous êtes lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat en tant que courtier en prêt immobilier, avec pour objectif d'accompagner les particuliers dans la constitution de leur patrimoine et la recherche de financement. J'ai bon ?
Tout est bon, c'est parfait.
Alors, j'ai envie d'être taquin avec vous, Norberto. A-t-on encore besoin d'aller voir un expert en financement immobilier en ce début d'année 2025, quand on voit les offres très compétitives dont quelques grandes banques nationales font la promotion en ce moment ?
Alors, ce qu'on peut rappeler, déjà dans un premier temps, c'est que le courtage arrive en France dans les années 90. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel contexte il arrive, pour pouvoir faire le parallèle par rapport à aujourd'hui. Le courtage arrive dans un contexte où nous avons une complexification de l'offre et de régulation bancaire. Et les auditeurs qui nous écoutent et qui vous écoutent déjà depuis pas mal d'années, si je leur parle de taux d'usure, de normes d'endettement, de critères HCSF, voilà, ce sont des choses qui font sens. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'intermédiation et le courtage en prêt immobilier permet d'avoir un interlocuteur qui maîtrise ces sujets-là et qui maîtrise également les critères de recevabilité des différents établissements bancaires. Donc ça va bien au-delà, finalement, des conditions de taux qu'on évoque dans le cadre des promotions que nous avons actuellement.
Donc de l'expertise.
Ce qui est important de rappeler également, c'est le rôle d'un intermédiaire en prêt immobilier, en financement. Le rôle du courtier, c'est tout d'abord aussi de défendre les intérêts de son client. Donc, défendre les intérêts de son client, ça va au-delà des conditions tarifaires, parce qu'on a plein d'autres sujets autour du crédit immobilier, notamment les assurances, le montage financier, est-ce qu'il va être adapté ? Est-ce que les garanties que la banque propose vont être adaptées également ? Et est-ce que les options de l'offre de prêt sont pertinentes par rapport au projet immobilier que l'on envisage. Donc défendre les intérêts de son client, la mise en concurrence des établissements bancaires également, donc sur tous les aspects qu'on vient d'évoquer, et bien évidemment la recherche des meilleures conditions du taux et de ce qu'on vient d'évoquer également sur la partie assurance, garantie et options. Donc tout ça, c'est beaucoup de gain de temps pour l'investisseur, parce qu'on va finalement centraliser toutes ces données-là pour pouvoir lui apporter effectivement une solution clé en main qui correspondent vraiment à ses objectifs et à ses critères d'investissement. Donc c'est tout simplement un accompagnement qui est complet. Et aujourd'hui, pour répondre plus précisément à votre question, la part du courtage en 2006 représentait 15%. En 2022, on est à 50%, donc un dossier sur deux qui est intermédié par un courtier en prêt immobilier. Et la tendance n'est pas prête de s'inverser.
Alors, je serais tenté de dire, Norberto, en 2025, beaucoup de pans de l'économie sont digitalisés. Les investisseurs non professionnels ne peuvent pas trouver leur compte en toute autonomie avec le digital ?
Oui, ils peuvent. Mais est-ce qu'ils doivent le faire ? C'est une autre question. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça nécessite beaucoup de temps. Il y a la recherche des informations, la compilation de ces informations-là, la comparaison des offres également. Donc tout ça, ça nécessite un temps qui est colossal. Et finalement, avoir affaire à un expert, c'est aussi s'ouvrir sur une stratégie patrimoniale différente auquel on n'avait peut-être pas pensé. L'échange avec un expert permet justement cette ouverture-là. Donc le digital aujourd'hui, c'est quoi ? C'est tout simplement des données qui sont chiffrées, liées à un projet immobilier, mais sans prendre en compte les particularités de l'investisseur. Donc le digital, oui, c'est bien pour l'aspect technique, les données chiffrées, mais toutes les particularités type objectif d'investissement, les changements patrimoniaux à venir, la prise en compte d'évolutions professionnelles futures, tout ça, le digital n'en tient pas compte quand on fait une demande purement digitale. Donc d'où l'intérêt effectivement d'avoir en face de soi un intermédiaire qui est capable de prendre en compte tous ces paramètres-là et finalement aujourd'hui faire appel au service d'un expert en financement, c'est garantir que votre projet bénéficiera d'une gestion optimale et d'un accompagnement stratégique.
Je suis taquin ce matin, mais est-ce que l'expert en financement immobilier, comme pour l'agent immobilier d'ailleurs, est toujours impartial face à la solution proposée ?
Alors j'adore cette question. Merci de me la poser. Et justement, la spécificité de notre métier, contrairement à d'autres, c'est que l'intermédiaire, il est payé au résultat et non pas au conseil, comme d'autres types de professions. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, notre objectif, c'est de présenter la meilleure offre possible. Pourquoi ? Parce que qui dit une mauvaise offre ou un mauvais accompagnement, c'est pas de rémunération pour l'intermédiaire. Mmh. Aujourd'hui, on est sur un modèle économique qui est basé sur des honoraires qui sont facturés aux clients. Donc forcément, si la prestation de service, elle est pas en adéquation avec les souhaits du client, on n'est pas rémunéré. Donc ce qui garantit finalement l'impartialité de notre profession.
Obligation de résultat et non pas obligation de moyens.
Complètement, oui.
De votre point de vue, Norberto, quel est l'état du marché et comment est l'accès au crédit en ce début d'année ? Des difficultés, des opportunités ?
Alors, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je vois surtout des opportunités. Le marché des taux est stable et on avait besoin de cette stabilité pour que les acquéreurs reviennent un petit peu sur le marché. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'instabilité ou des informations un peu trop négatives, on a tendance effectivement à se mettre un petit peu en retrait du marché immobilier. Donc les taux là sont plutôt stables, ce qui est une bonne chose. Les banques retrouvent un petit peu de marge sur le prêt immobilier. Alors ça n'a jamais été un produit sur lequel les banques margeaient beaucoup. Ça reste un produit de conquête client pour les banques. Mais l'inconvénient, c'est qu'à une époque, les banques perdaient d'argent en faisant du prêt immobilier, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Donc il y a de nouveau une appétence des banques pour le prêt immobilier. Il faut savoir que les banques restent quand même très sélectives sur la qualité des dossiers, donc c'est pour ça qu'il est important...
Notamment avec les normes HCSF, probablement, oui.
Entre autres, par rapport à ça, et des critères de rentabilité, parce que chaque banque a effectivement des critères de rentabilité par rapport à la typologie de clients qu'ils vont pouvoir sélectionner. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de préparer en amont son projet avec un expert en financement qui va un petit peu maîtriser tous ces aspects-là et aller sélectionner la banque qui est en adéquation avec le profil d'investisseur.
Donc vous traitez une clientèle d'investisseurs non professionnels, ça veut dire que vous avez des particuliers, mais vous avez aussi par exemple des professions libérales, des dirigeants d'entreprise ?
On a effectivement tout ce panel de clients, toute personne qui s'intéresse de près à l'immobilier et qui a des projets d'investissement, on est en capacité d'étudier son projet.
Mais plutôt des investisseurs non professionnels ?
Plutôt non professionnels, bien sûr, oui.
On parle beaucoup sur nos antennes depuis quelques mois de l'impact du DPE et de l'évolution de la législation. Est-ce que cela a un impact sur l'octroi de crédit ?
Alors de plus en plus, oui, il y a alors un impact. C'est-à-dire que les banques vont pas forcément refuser un dossier parce que le DPE n'est pas bon, entre guillemets, mais elles vont plutôt favoriser les bons DPE. Donc il y a des conditions, notamment des offres spécifiques qui sont faites par certains établissements.
Des taux bonifiés par exemple ?
Avec des taux bonifiés, effectivement. À partir du moment où il y a un engagement de la part de l'investisseur de faire des travaux dans un certain délai, qui est généralement de 40 mois, ou qui va permettre d'améliorer la notation du DPE, le taux va être bonifié. Et donc l'échéancier du client va être revu en conséquence. Vous avez des banques qui, d'office, en fonction de la note du DPE, vont octroyer un montant de prêt à des conditions avantageuses, entre 0 et 1,99%. Donc les banques essayent aujourd'hui de construire effectivement des offres qui tournent autour de ce DPE, c'est-à-dire que le DPE, quand il est arrivé, on se disait, ça va un petit peu chahuter le marché de l'immobilier en termes de prix, ça n'a pas forcément été le cas, et je pense qu'aujourd'hui le DPE va être de plus en plus prégnant en fait dans l'octroi effectivement des dossiers bancaires et également des prix de l'immobilier, parce que les prix de l'immobilier n'avaient pas trop bougé à cause du DPE.
A priori, là, il y a de l'impact.
Là, il y a beaucoup plus d'impact. Effectivement, que ça soit pour la résidence principale ou même pour l'investissement locatif, il y a un impact qui est assez fort et qui se traduit par une baisse de prix. Donc, il y a effectivement des obligations de travaux qui sont de plus en plus importantes.
Je suis assez curieux. C'est la loi Hamon, me semble-t-il, qui permet de changer son assurance emprunteur en cours de vie du prêt. J'ai pas trouvé de données statistiques sur le sujet. Vous, à dire d'expert, est-ce que vous avez le sentiment que l'emprunteur, un investisseur non professionnel, utilise beaucoup cette possibilité de changer, de substituer son assurance emprunteur ?
Alors, plus dans le cas d'une résidence principale, parce que ça impacte directement le budget.
Oui.
Un petit peu moins dans l'investissement locatif, parce que l'investisseur se dit, de toute façon, ce sont des charges qui sont déductibles. Donc, si je paye plus cher, bah, c'est finalement pas très grave. Sauf qu'on baisse la rentabilité, finalement, de l'opération. Et quand on voit parfois les gains qu'on peut réaliser sur une assurance, qui sont très importants, qui passent parfois...
Sur la durée, oui, effectivement.
Sur la durée, qui sont divisés par deux, voire par trois, ou même, j'ai eu le cas où c'était divisé encore par plus que ça. L'idée, c'est de se dire, bah, ok, quel est mon objectif en tant qu'investisseur ? Est-ce que j'ai envie d'avoir une meilleure rentabilité ? Est-ce que je veux déduire un maximum ? Donc tout ça, ça fait partie de stratégies différentes. Mais aujourd'hui, le marché est très important. Beaucoup de personnes ont déjà utilisé donc, la substitution d'assurance. Mais il y a encore énormément de contrats qui sont logés au sein des banques.
Oui.
Donc qui sont des bons contrats avec des bonnes couvertures. Et tous les contrats sont pas forcément bons à être renégociés. Parce que les délégations ont aussi bah, leur point faible. Mais il est important en tout cas de faire appel à un expert pour étudier et comparer entre la situation actuelle et ce que l'on peut avoir demain.
Je ne doute pas que les banques traditionnelles proposent des bons contrats d'assurance emprunteur. Norberto de Oliveira, je vous remercie de cette rencontre. Je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup, Monsieur Primo.
Chers auditeurs et chers investisseurs, je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous avoir éclairé. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos antennes, en podcast, ainsi que sur les réseaux sociaux. À bientôt et prenez soin de vous.
Patrimoine et finances, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, chef de marché profession libérale pour le groupe Société Générale.